se lève.
Il a l'air bien fin comme ça, mais c'est une façade. La mission d'Alexis.
La mission d'Alexis était d'aller rencontrer. On a connu pire, hein, Alexis?
Oh oui, j'ai connu pire. Mais j'ai pas réussi ma mission complètement. Parce qu'il faut dire que l'origine de ma mission, c'était de l'amener en studio.
OK, Félix Auger à Liassim et de oui. passage à Québec.
Voilà.
Mais tu sais bien que tout le monde veut le voir, là.
Oui.
Tout le monde
oui.
veut y parler.
Oui. Et il y avait pas mal de demandes. Et parce qu'il était du côté du Club Avantage hier pour aller donner une clinique de tennis. Et là, quand j'ai su ça, je me suis dit, on va essayer de l'amener en studio, mais j'ai su que j'étais pas le seul à essayer de faire ça. Mais finalement, on a dit, bon, ben comme il y a pas mal de demandes, on va organiser une rencontre avec la presse au Club Avantage après la clinique avec les jeunes.
OK. Donc, tu es allé le rencontrer avec d'autres journalistes.
Oui.
Est-ce que... T'as eu l'impression, parce que le danger des succès, parce qu'il a eu du succès, le danger, c'est que la tête le renfle puis passe plus dans les portes.
Moi, c'est exactement ce que je voulais savoir. En fait, moi, plus pointu que ça, je voulais savoir comment Félix Auger-Aliassime composait avec toute cette envergure-là, toute l'ampleur du mouvement qu'il a pris autour de Félix Auger-Aliassime. Et hier, avant qu'on puisse lui parler, avant que les journalistes puissent parler avec Félix Auger-Aliassime, il a répondu aux questions du public. Et entre le moment où le micro s'est promené, un moment donné, le père de Félix Auger-Aliassime, Sam Aliassime, qui est maintenant lui qui dirige l'Académie de tennis Irisset-Bordelot, il a pris le micro et il dit, je veux juste rajouter quelque chose. Il dit, je veux parler de l'importance de jouer au tennis. Et là, il m'a devancé parce que c'était exactement là-dessus que je voulais amener Félix Auger-Aliassime et son père. Et je vais vous faire entendre d'abord ce que Sam Aliassime, le papa de Félix, avait raconté au niveau de ce que l'entraîneur de Félix lui a mentionné quand il était plus jeune sur l'importance de jouer au tennis. Et par la suite, je suis allé questionner Félix à ce sujet-là.
Cette façon de voir les choses, amusez-vous, c'est ça qui est très important. C'est ça qui peut nous amener parce qu'après tout, le tennis, ça reste un jeu. Ça reste un jeu où le plaisir de jouer, il faut qu'il soit là. C'est avec ça qu'on peut obtenir des résultats. On peut en même temps être sérieux, mais ne pas se prendre trop sérieux.
Ton père parlait tantôt de l'importance de jouer au tennis.
Oui.
Malgré la pression assez importante sur toi, ton rang mondial et tout ça. Est-ce que tu joues encore au tennis aujourd'hui?
Oui, je joue. Après, ça devient un peu différent avec la charge de travail. Ça devient un peu plus... Évidemment, ça se rapproche plus d'un travail que du jeu en tant que tel. Après, je pense qu'on peut prendre plaisir dans notre travail, comme tout le monde, j'espère, font. Mais moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer, à m'entraîner, à trouver des solutions, des fois, aux problèmes qu'on rencontre. Ça, c'est des choses qui sont bien au tennis. Comme on a vu, l'adversité est forte. Donc, j'arrive à l'US Open, je pars au premier tour. Bon, ben, faut qu'on se rassure avec mes entraîneurs, faut qu'on trouve des solutions. C'est challengeant, donc ça, c'est des choses qui sont très positives aussi. Mais je pense qu'à la fin, je prends énormément de plaisir, puis c'est vraiment, ça reste un jeu aussi pour moi.
OK. Quand il parle du travail, il parle de dealer avec les médias, les commanditaires, etc.?
Ben, ça, notamment, et le fait qu'à un moment donné, c'est un sport pour lui, mais il faut qu'il aille plus loin. T'sais, c'est toujours l'amener plus loin. Actuellement, il est 21e mondial, Félix Auger-Aliassime. Là, il dit, peut-être d'ici la fin de la saison, je suis capable d'arriver dans le top 20, déjà, c'est un accomplissement. Donc, oui, c'est de jouer, mais il reste malgré tout qu'il y a des objectifs à travers tout ça pour Félix Auger-Aliassime. Il faut qu'il réussisse à passer à travers. Et là, d'ailleurs, il s'est offert une petite pause. Félix Auger-Aliassime, il n'était pas du côté de Genève, c'est la Coupe Laver. Il a préféré prendre une pause parce que il disait qu'après le US Open, là, il était pas mal épuisé, notamment mentalement.
Et ben là, il s'est fait sortir par Chapovalov. Il est tanné d'être opposé tout le temps à ses chums. Parce qu'on dirait que les deux, trois derniers tournois, là, systématiquement, ils ont mis les Canadiens l'un contre l'autre en première ronde.
C'est vrai.
Ça fait que là, ça, c'est même tannant pour les partisans parce que t'as envie de croire en la jeunesse, t'as envie de prendre pour la jeunesse, puis finalement, ben, t'es divisé parce que t'as aussi quelqu'un qui a été excellent dans les dernières années, qui reste une figure dont on est très fier au Canada.
Tu sais, quand il doit battre Chapovalov à première manche, ça veut dire qu'on perd un des jeunes en première manche.
Ben oui.
C'est moins le fun.
Hier, Félix Auger-Aliassime, qui est originaire de l'ancienne Lorette, il était là parce qu'il voulait aller redonner aux jeunes. Il donnait une clinique entre 10h et 11h30, puis il a pu jouer avec les jeunes, leur donner des conseils. Et je lui ai demandé à Félix, Est-ce que à l'époque où il était jeune, qu'il jouait au club Avantage, parce que je me dis, j'aurais pu le croiser sur le terrain municipal à l'ancienne Lorette, Félix Auger-Aliassime, là. Il était peut-être en train de jouer une game de tennis, là, si j'avais grandi pas loin de chez eux, là, je l'aurais peut-être croisé là. Puis je lui demandais si, déjà à cet âge-là, quand il avait 6, 7, 8 ans, il était déjà convaincu qu'il allait devenir un pro du tennis dès cet âge-là.
Je voulais y croire, que j'étais convaincu. Par contre, j'ai jamais eu de garantie ou de conviction. Je pense que... Par contre, ce que j'étais convaincu, c'était que c'est ça que je voulais faire. Je me suis dit, peu importe ce qui arrive, je vais m'entraîner le mieux que je peux. Je vais tout donner. Je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Parce que je suis convaincu que je vais être un joueur professionnel. Puis j'y ai cru jusqu'à temps que j'arrive où j'en suis aujourd'hui. Puis la route n'est pas finie non plus. Mais c'est sûr que j'ai jamais été convaincu que j'allais y arriver. Mais toujours convaincu que c'est ce que je voulais faire.
Et à partir de ce moment-là, ben, je me dis, écoute, t'es là, tu donnes des conseils aux jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir? Qu'est-ce que le Félix Auger-Aliassime aurait aimé savoir à 8 ans pour éviter de perdre un peu de temps dans sa carrière?
C'est vrai que c'est une bonne question. Je me pose souvent cette question-là. Qu'est-ce que je dirais, tu sais, à des jeunes pour peut-être pour qu'ils vivent des choses plus facilement que moi je les ai vécues, ou même si moi ça a très bien été, mais je pense que je leur répéterais qu'il faut être patient, que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Quand t'es jeune, t'es dans l'action, tu veux que les choses se passent immédiatement, tu veux un résultat immédiat, mais je pense que je leur répéterai encore une fois d'être patient puis de croire en leur travail, parce que ça va les amener où ils veulent aller un jour, ou ça va leur donner une meilleure chance d'y arriver. Mais moi, j'étais un peu, j'étais un peu impatient, je voulais le résultat immédiat, donc je pense que je leur dirais ça.
Ouais, c'est donc ouais, dire à un jeune d'être patient, c'est comme rien dire là.
Mais non.
C'est comme rien dire.
On peut l'avoir en tête, mais ça changera pas grand-chose dans nos actions. Mais est-ce qu'il
comme
est bon?
Comme disait un de mes frères, tout ce que tu dis à un ado, il le met à la poubelle.
Non, c'est
mais attends un peu. Je vais compléter sa phrase, mais il ne met jamais la poubelle au chemin.
Ah, OK, c'est bon. J'allais dire, sinon, il le met au grenier, parce qu'on le ressort à un moment donné.
C'est vrai.
Il ne met jamais la poubelle au chemin.
Non, exactement. Est-ce qu'il est bon avec les jeunes? Est-ce qu'il était bon dans l'approche? Il a-tu été généreux? C'est sûr que juste d'être là, c'est généreux, mais comment il est?
Gêné, timide, Félix Auger-Aliassime. Et hier, on lui demandait s'il avait pu jaser un petit peu avec les jeunes. Il dit oui, un peu, mais il dit les jeunes, tu sais, sont un peu gênés, ils osent pas trop non plus. Et Félix Auger-Aliassime, c'est quelqu'un de malgré tout très, très réservé, hein. Donc, il était là hier, était généreux de son temps, mais c'est pas la personne la plus volubile. C'est pas celui qui allait arriver. C'est pas un Piqué Souban, là. Ouais. Tu sais, c'est pas lui qui va arriver avec les jeunes, puis parce qu'on en parlait tantôt de Piqué, puis aller voir, viens-t'en. Mais, il était là, puis je pense que pour un jeune qui joue au tennis, c'est quelque chose là, de le voir.
Et c'était drôle, à la TV hier, il y avait une espèce de McEnroe Junior qui disait « Je l'ai battu, moi, Félix Auger-Aliassime, parce qu'il a réussi à faire un point contre lui en lui envoyant une balle complètement hors de son...
sa portée.
De sa portée.
Oh, mais c'est mignon, ça.
Oui, je trouve ça mignon.
Ben oui. Mais oui.
Mais tu sais, je t'ai dit, le futur McEnroe, là, tu sais.
Ouais. Et Félix, hier... c'était spécial, là, parce que là, il se ramasse chez lui. Mais tu sais, c'est comme un moment de relâchement. Parce que là, la pression est moins présente. Parce qu'on lui demandait aussi sa carrière internationale. Comment est-ce qu'il réussit à composer avec ça? Parce que c'est pas mal de pression. Puis est-ce qu'il finit par s'enfler la tête? Puis comment il compose avec l'ampleur que sa carrière a prise?
Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Évidemment, les bases de fait de rester la même personne, de continuer à faire ce que je faisais bien, de continuer à faire mon chemin tranquillement, ça aide. Évidemment, il y a un ajustement par rapport, oui, comme vous avez dit, à la pression médiatique. C'est sûr que c'est des discussions que j'ai avec mes entraîneurs, avec ma psychologue sportive. C'est des conversations que j'ai, évidemment, pour apprendre à être un peu... avoir une étanchéité par rapport à la pression que certaines personnes de l'extérieur vont mettre ou certains commentaires que, des fois... certains gens vont dire, ou certains fans, je sais pas, mais faut que j'apprenne aussi à pas trop m'exposer à ça, puis à continuer à faire mon chemin tranquillement.
Il y a une chose aussi dans le monde du tennis que je trouve intéressante, parce qu'on a eu la discussion aussi, Myriam, récemment, à savoir que c'était quand même impressionnant de voir que c'était les Andreescu et les Félix Auger-Aliassime qui ont pris la pole du tennis canadien, alors qu'on attendait davantage des Milos Raonic et des Eugénie Bouchard qui étaient plus jeunes. Je demandais à Félix comment est-ce que lui expliquait le fait que le tennis, notamment canadien, semble appartenir, puis le tennis en général appartient de plus en plus aux jeunes.
Ouais, d'un côté, il y a beaucoup de jeunes, comme moi, puis Bianca, puis d'autres, même à l'intention, qui jouent bien. Après, du côté masculin, il y a encore les Djokovic, les Nadal qui sécurisent presque tous les gros tournois. On a vu les deux, Djokovic et Nadal, gagner les quatre Grand Chelem cette année à eux deux. Donc c'est difficile pour nous de percer tant qu'ils jouent encore à ce niveau-là. On travaille dessus. Mais c'est sûr que c'est bien. T'as eu, on a vu Milos et Eugénie qui ont fait des finales, qui sont passés pas loin. Mais je pense que là, avec Bianca qui vient de faire un exploit comme ça, je pense que pour des joueurs comme moi, Denis, puis même d'autres après, on y croit beaucoup plus qu'on y croyait avant.
Okay.
Mais c'est pas nouveau que les jeunes rayonnent au tennis, non?
Non, mais tu sais, on attendait beaucoup de Raonic, qui a été ralenti par des blessures.
Ouais.
On attendait beaucoup d'Eugénie Bouchard, qui a été ralenti par les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça.
Bon. Tu sais, il y a eu, avant ça, il y a eu Alexandra Wozniak.
Ouais.
Qui a été,
qui a été bonne.
Oui, mais qui a été blessée.
Oui.
Est montée jusqu'à 34e, voici.
Ah, je me souviens pas exactement le rang, par contre, mais montée...
Fait que, on n'avait pas dans notre... La première fois qu'on a entendu parler de Chapovalov, c'était quand? Rappelez-vous? C'est quand il a tiré une balle à un arbitre.
Oui, c'est vrai.
Il a attiré l'attention.
Puis on a dit, c'est qui ce maudit fou-là? Finalement, c'est pas un maudit fou. C'est un jeune qui est...
Un peu le
six.
Ouais.
Peut-être...
La frustration...
Et Félix a parlé de trois joueurs. Il a parlé des Nadal, des Djokovic et des Federer. Est-ce qu'il pense qu'il va être capable d'atteindre ce niveau-là éventuellement?
Je me dis, si on l'avait demandé à mon âge, qu'est-ce qu'ils auraient dit, tu sais? Ils auraient dit, je vais gagner 20 grands chelems, je vais gagner 19 grands chelems. Je pense pas. Donc, je me dis, on va voir ce que le futur nous réserve. Moi, je vais essayer de faire les choses du mieux que je peux. Je vais essayer d'optimiser mon jeu du mieux que je peux, devenir le meilleur joueur que je peux. Si le meilleur joueur que je peux être, c'est plus que 10 grands chelems, je sais pas, ben tant mieux. Mais en même temps, en ce moment, je peux pas savoir. C'est sûr que ça paraît un peu loin et inatteignable le niveau qu'ils arrivent à jouer. Mais tranquillement, pas par pas, peut-être que j'arrive un jour.
Et je veux vous faire entendre en terminant Félix Auger-Aliassime qui a écrit à Bianca Andreescu pour la remercier à la suite de sa victoire. Et il a lancé une forme d'hommage à Bianca Andreescu. Puis je trouvais ça intéressant, les commentaires qu'il a émis.
C'est vrai que c'est inspirant. Puis je lui avais écrit un message pour la féliciter, mais aussi la remercier de l'inspiration qu'elle est pour les jeunes, mais aussi pour des joueurs comme moi, même pour Chapovalov, même d'autres joueurs, de nous prouver à quel point c'est possible, parce qu'on a vraiment grandi avec elle, on a joué les tournois géants avec elle, puis de la voir là, de voir gagner à ce niveau-là, c'est vraiment inspirant, même pour quelqu'un comme moi.
Vu qu'Andreescu gagne en jouant comme les hommes, est-ce que Félix Auger-Aliassime devrait apprendre à jouer comme une femme?
Ben, l'exception, c'est Andreescu qui a appris à jouer comme les hommes.
Ouais, je le sais pas, je suis pas sûr que c'est le même principe.
Non, c'est pas le même principe. C'est sûr que c'est pas le même principe. merci, Alexis. Tantôt, là, on a posé une question sur Samuel Chénard. J'ai oublié de donner la réponse.
Oui, ben écoute...
Félix, t'as eu un gagnant?
Oui, j'ai eu un gagnant qui s'appelle Richard. Et Richard avait la bonne réponse à l'effet que Samuel Chénard étudie un baccalauréat en enseignement au secondaire.
Enseignement secondaire. Hey, il s'en va dans la meute.
Oui, mais il va en éducation physique. En vrai, tous les joueurs, ils étudient en éducation physique.
C'est sûr qu'ils sont un modèle dans ce domaine-là, là. Mais enseignement secondaire, même en éducation physique, là. Le défi d'un enseignant au secondaire en éducation physique, c'est d'intéresser les nerds et d'intéresser les filles.
Malheureusement.
Les filles, c'est un des drames du secondaire, c'est que l'éducation aux adultes autrefois, c'était vraiment des adultes, des gens de 20 ans, 25 ans qui revenaient aux études pour compléter un diplôme secondaire. Aujourd'hui, l'éducation aux adultes, il y a beaucoup de jeunes du secondaire qui lâchent le secondaire pour échapper à certaines matières qu'ils détestent.
Oui.
Dont l'éducation physique.
Dont, pour les filles, l'éducation physique. Puis pour les gars...
Les arts plastiques.
Les arts plastiques, français. La science religieuse. Non, le français, ils n'y échappent pas. Ils n'y échappent pas au français. Ils doivent faire français... ils doivent au moins faire français secondaire 3 et 4 s'ils veulent accéder à un programme... un programme de...
DEP, notamment, oui.
Mais donc, le défi d'un enseignant au secondaire en éducation physique, c'est d'accrocher les nerds et d'accrocher les filles. Les faire rester au secondaire, malgré leur matière.
Il y en a qui réussissent. Moi, j'ai eu des super profs d'éducation physique. Sincèrement, là, qui réussissaient à nous faire aimer ça. Les seules choses qu'on détestait, c'était les maudits tests qui étaient établis justement par ceux en haut de l'éducateur. Là. Celui qui nous proposait les jeux de groupe, il rendait ça tellement plaisant puis tellement accessible à tous. Mm-hmm. Il nous poussait, c'était vraiment plaisant, mais toujours sans nous mettre de pression là, à être excellente. d'un autre côté, ben, c'était tout le temps les tests où tu devais prendre ton poids, où que tu devais courir plus vite que les gars, que tu devais sortir de ta zone de confort. Oui, c'est bien, mais il y a un moment donné où t'es pas capable d'y aller. Pourquoi tu me fais pas juste bouger?
Ouais.
Ça, j'ai jamais compris.
C'est ça, c'est il faut apprivoiser des sports, découvrir des sports. Oui. Moi, j'ai découvert comme ça au secondaire le badminton.
Ben oui.
Puis c'est resté mon sport jusqu'à il y a... en fait, depuis que je suis déménagé à Québec, que je joue plus au badminton.
Ah ouais.
C'était tellement créatif, là, mon
gars. J'ai perdu ma gang.
Ah ouais.
Fait que là...
t'as arrêté?
J'ai arrêté de jouer au badminton. Puis en plus, mon fils m'a piqué mes raquettes.
Ah ben là.
Ah ben là, ça c'est des problèmes familiaux, Myriam.
C'est pas cher, les raquettes de badminton, là.
Ouais, ben, il devrait pas y piquer pareil.
J'avais de bonnes raquettes. Ça, c'est une des affaires au badminton que j'ai découvert.
Qu'il y a de bonnes raquettes?
Que, oui. J'avais des tendinites, tu sais, qui me ralentissaient. Puis là, tu mets des espèces d'anneaux autour de ton avant-bras pour ralentir la tendinite, etc. Le jour où j'ai acheté une raquette de 75 grammes, fini.
Mais ça pèse rien.
Fini. Ça vaut la peine. Surtout si on a tendance à des tendinites, ça vaut la peine d'acheter une raquette de 200-300 $.
Ben, si tu y vas souvent, puis c'est ton sport, puis que ça t'empêche d'avoir des blessures, je vois pas c'est quoi la limite de payer ce montant-là.
C'est ça. Mais ça vaut vraiment la peine.
De bien s'équiper.
Oui, oui, parce que sinon, tu te blesses, puis tu perds du plaisir.
Oui.
Fait que acheter une bonne raquette légère, avec la poigne qui... écoute, moi, j'ai les mains qui viennent avec le reste, là, tu sais.
Peut-être.
Alors, moi, ça me prend la poigne petite, extra petite même. Puis à partir du moment où j'ai ça dans les mains, j'ai plus de problème.
Mais c'est comme dans n'importe quoi. Tu parles de badminton, mais va t'en faire du ski de fond, là. Moi, j'étais bien équipée, sauf le manteau et tout ça. J'ai tellement trouvé ma première saison horrible, mais la deuxième exceptionnelle, parce que je me suis fait dire, voyons, Pascal, t'es juste pas bien habillée pour
c'est
le faire.
C'est ça.
Tout est dans l'habillement, l'équipement.
Quand j'avais 6 ans, 5-6 ans, puis qu'on est arrivé au Québec, ma mère s'est mis dans la tête qu'on allait vivre notre vie au Québec et donc qu'il fallait qu'on s'habitue au froid. Et donc, elle ne nous a pas habillés pour l'hiver. En disant, il faut qu'ils s'habituent, il faut qu'ils s'endurcissent. Ils vont passer leur vie ici.
Oh, je l'aime!
Et là, ce qui est arrivé, c'est que notre voisine avait pitié de nous autres. Mes parents étant professeurs, à l'époque, professeur, c'était une belle profession admirée. Les voisins n'osaient pas dire aux deux profs, vous êtes dans les patates. Ça fait que là, les voisins nous interceptaient sur le chemin de l'école, nous habillaient. Au retour de l'école, on laissait notre linge chez les voisins.
Voyons.
On rentrait à la maison, puis on n'avait pas l'air d'avoir froid.
Fait que ta mère t'a jamais acheté de manteau?
Non. Un jour, elle s'est rendue à l'école à pied.
Ah, elle a pas aimé
elle
ça.
S'est gelée les deux oreilles. Le lendemain, on est habillés.
S'habituer au froid, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue. T'habilles pas tes enfants. Pas parce que t'as pas les moyens, pas parce que t'es de mauvais parents, c'est que tu crois qu'ils vont s'habiller.
Ils vont faire leur vie ici, il faut qu'ils s'endurcissent.
Hey, je t'aurais tricoté une tuque, Myriam Segal, si je t'avais pensé.
Ça a pas duré très longtemps, là. Mais,
une journée, c'est trop.
Mais on a fait jusqu'à Noël, au moins, comme ça.
Oh là là. Hey, quelqu'un nous dit, j'ai décroché, j'ai terminé aux adultes, j'ai fait un DEP 17 ans plus tard, je suis au bac en enseignement professionnel pour pouvoir aller enseigner le DEP que j'ai suivi, un beau cheminement. Félicitations, sincèrement. C'est une belle histoire, ça, parmi toutes celles qu'on reçoit.
Hein?
Un autre.
C'est ça.
Je suis responsable de la vie scolaire, parascolaire dans une école secondaire. Je dis toujours que le secondaire, c'est un plateau d'essai. T'aimes pas, tu changes d'activité. Il faut tout essayer, ce qui nous tente. Hey, dans nos cours d'éducation physique, tellement ils étaient créatifs, on a essayé le golf, le tir à l'arc. Ouais. Le ski de fond, parce qu'on avait des pistes derrière, puis ils se sont dit, on va équiper l'école, ça va durer des années. Puis ils ont équipé l'école en usager, il n'y a pas besoin de grand-chose. On a essayé des sports, tout sport, pour essayer de nous motiver à bouger.
OK. Mais tu vois, moi, j'ai détesté mon secondaire. J'étais ici à Bellevue, à côté. Là.
OK.
J'ai détesté mon secondaire.
Tu faisais courir?
Notamment parce que comme j'étais petite et vraiment pas une athlète, petite et ronde, on va le dire comme ça, on me refusait dans les équipes parascolaires de sport.
Ben voyons donc, t'avais envie puis on te refusait.
Oui, c'était une école où on repérait le talent des jeunes et on les poussait dans ce talent. Alors moi, je m'occupais du journal étudiant, etc. Mais quand j'ai voulu jouer au basketball, on m'a rejeté.
Ouais.
Puis c'est sûr que le basketball, je ressemble plus au ballon qu'à un joueur.
Non, franchement.
Mais tu sais... J'ai détesté ça. Mais parce qu'on m'a empêché, puis j'étais fondamentalement une sportive.
C'est parce qu'eux veulent des équipes élites, ils veulent que l'école rayonne à travers le Québec, parce que souvent, tu as des compétitions entre tes équipes, donc tu sélectionnes les meilleurs joueurs. Mais de là à même pas t'essayer, ça me cause un petit problème. Il y a Isabelle qui nous écrit, ouais. « Je détestais les jeux du style ballon chasseur où le prof tolérait que les gars nous vargent le ballon dessus. » Elle écrit ça comme ça. « Ou qu'il y a un minimum qui était... » C'est même pour tout le monde. Pour faire un nombre de push-up, figures sur les barres parallèles, il y avait rien d'adapter à ceux qui sont pas très bons ou détestent ça. Oui, je vais le faire, mais donne-moi un défi selon mon expérience et non la même norme que le super pro dans les autres élèves qui font ça puis que ça a l'air facile puis qui depuis des années ils sont là-dedans puis qui rient de nous en plus parce que c'est vrai souvent ce sont des bullies parce qu'ils sont bien fiers de leurs compétences. Elle dit, j'ai passé mon éducation physique, mais elle dit éduque, c'est vrai, on disait ça, on s'en va en éduque. Mais j'ai détesté chaque minute, puis ça c'est le problème.
C'est ça.
Puis en même temps, j'ai eu un enseignant au primaire qui nous obligeait à la récréation d'aller jouer au ballon chasseur, qui jouait contre nous. Et je me rappelle encore de comment il crinquait son bras pour se donner de l'élan et diviser les petites meutes de filles qui étaient dans le camp. On bougeait, Myriam, je te jure, on cessait de parler, on bougeait.
Ouais, mais tu sais, les défis, on les prend pas tous de la même manière. Il y en a qui les prennent en disant, garde là, je vais leur prouver que... Puis il y en a qui les prennent, oh non, pas encore lui, qui va m'écœurer.
Ouais.
Tu sais, il faut, puis c'est ça tout le raffinement de l'enseignement au secondaire, il faut arriver à s'adapter à chaque individu alors qu'en réalité, ils te sont présentés en meute.
Absolument. Puis ça, ce sont les meilleurs enseignants qui réussissent à le faire.
Il y a Michel qui dit, ton histoire, mon histoire d'aller en bas cours à l'école, là,
oui.
Ton histoire me fait penser à l'histoire du gars qui essayait d'habituer son cheval à pas manger, comme juste au moment où il allait s'habituer, il est mort.
Est-ce que t'en as reparlé à ta mère de ça?
Oui, on a beaucoup ri avec ça par la suite, là. Mais c'était... Ben moi, j'ai toujours dit que je suis né... Il y a quelqu'un qui dit de quel pays je viens. Je viens du Québec. Je suis né à l'âge de 5 ans à Jonquière.
Ah, ben là, précise. Pauvre Mike, il comprend pas pourquoi ta mère voulait que tu t'habitues au froid.
Ben, mes parents ont immigré au moment de la création du ministère de l'Éducation. Petite leçon d'histoire. Le ministère de l'Éducation en 62. Duplessis est battu, les libéraux arrivent au pouvoir, c'est la révolution tranquille. On crée le ministère de l'Éducation et l'éducation secondaire et le collégial va être inventé bientôt. L'éducation secondaire va être offerte à tous, gratuitement. C'est ça la révolution. Ce qui veut dire qu'il faut faire venir des profs d'urgence, de partout. Et on a besoin de profs, on va avoir une masse d'étudiants qui vont avoir droit à l'éducation secondaire gratuite. Le cégep de Jonquière, ce qui est devenu le cégep de Jonquière, qui était le collège classique de Jonquière à l'époque, était dirigé par des oblats. Beaucoup de communautés religieuses ont décidé à ce moment-là de faire des collèges privés. C'est ce qui est arrivé à Québec, les jésuites, Bellevue, le petit séminaire, etc. Mais les oblats à Jonquière ont décidé qu'ils allaient participer au système public. Et ils ont donné le collège classique au système public, sauf que ils ont recruté les profs. Et ils sont allés dans les collèges catholiques étrangers pour recruter les profs. Parce qu'on avait quand même encore à cette époque-là le souci que
la religion soit présente.
Et c'est comme ça que mes parents ont été recrutés en Belgique en 62, alors que j'avais 5 ans et que je suis née à l'âge de 5 ans à Jonquière.
Une toute petite qui, quelques années plus tard, se promènera en bas cours à l'hiver québécois. Marie-France qui dit aussi, ma fille est dans un collège privé, elle est excellente au basket, mais les maudites bip-bip régulièrement, elle déteste. C'est ça l'affaire. Ils nous découragent avec des pressions où qu'on doit se comparer avec les autres, mais quand on est finalement actif, on aime bouger et on aime un sport, au lieu de valoriser ce sport-là.
Alex, t'essayerais-tu de nous trouver un prof d'édu qui nous expliquerait pourquoi ils font ces tests-là, qui ont l'air d'être plus répulsifs qu'attirants?
Oui. Mais je pense que pour des profs, c'est pas le fun à donner.
Parce que la base, là, c'est que les profs d'édu, l'édu n'était pas prise au sérieux.
Ben non.
Et là, ils essayent de quantifier l'amélioration de l'étudiant.
Oui.
Pour essayer d'être pris au sérieux et de démontrer scientifiquement.
Oui, puis de laisser la chance aussi aux élèves d'avoir de meilleures notes, là, parce que sincèrement, ça. Puis lancez-moi des tomates, mais moi, les tests bip-bip, j'ai jamais pris au sérieux. J'en avais rien à faire. Aussitôt que ça commençait, je regardais, là, puis mettons, les plus faibles, je les laissais partir sur le banc, puis à un moment donné, j'étais comme, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je pousse pas plus loin. Je veux dire, en quoi tu sors de ta zone de confort? Ouais. Non, c'est juste stupide. Je trouvais ça stupide de nous faire courir au bip.
Il est 8h35 minutes. Dans quelques instants, on se casse la tête avec un jeu qui s'appelle Dilemme.
Oh, yes!